18h sur France Culture, l'heure du journal avec vous Aurélie Kiffer, bonsoir.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Recueillement à Auschwitz, 75 ans après la libération du camp de concentration et d'extermination nazi, Ludovic Piétenu est sur place pour France Culture. Les Palestiniens appellent la communauté internationale à boycotter le projet de paix américain pour le Moyen-Orient, un plan jugé trop favorable à Israël, correspondance d'Alice Froussard. L'ancien conseiller John Bolton contredit Donald Trump dans l'affaire ukrainienne. Ses déclarations accréditent le bien fondé de la procédure de destitution du président américain. Explication de Grégory Phillips. Et puis en France, le chômage a nettement baissé en 2019. C'est la plus forte baisse depuis la crise de 2008. Analyse de Marie Viennot. Venus du monde entier, plus de 200 survivants sont venus partager leur témoignage sur le site de l'ancien camp nazi d'Auschwitz. Accompagnés par le président polonais, ils ont déposé des couronnes de fleurs près du mur de la mort où les nazis ont abattu des milliers de personnes. Cela fait 75 ans, jour pour jour, que le camp de concentration et d'extermination a été libéré. Et vous avez suivi la cérémonie, Ludovic Piétenu.
Oui, cette cérémonie qui a pris place et qui est à l'instant en train de se refermer par une messe œcuménique. Cette cérémonie qui prend place sous un chapiteau immense qui recouvre la grande porte d'entrée du camp d'Auschwitz II. Cette porte est éclairée d'une lumière rouge qui fait ressortir la teinte des briques. Les 60 chefs d'État et de gouvernement, les invités, font donc face à cette porte tristement célèbre avec cette voie ferrée qui la traverse, l'entrée symbole qui menait à cette usine de mort, comme l'a qualifié le président polonais Andrzej Duda dans son discours. Nous avons une obligation pour l'avenir, a-t-il dit, l'obligation de faire qu'une telle extermination ne se reproduise pas. Les témoignages de rescapés se sont succédés à la tribune, comme cette survivante Elsa Becker, arrêtée à Hambourg en Allemagne. Elle avait 8 ans quand elle a été déportée au camp d'Auschwitz. C'est un honneur, dit-elle, d'être parmi tant de gens qui ont tellement souffert et probablement beaucoup plus que moi. Cette survivante est alors complètement bouleversée. Elle ne trouve pas ses mots. La salle lui apporte son soutien avec des applaudissements. Elle fait partie des 200 survivants présents à cette cérémonie. Des survivants un peu moins nombreux à chaque anniversaire. C'est bien tout l'enjeu des années à venir. La transmission de la mémoire et éviter aussi que l'histoire se répète. Une mise en garde contre la montée de l'antisémitisme en Europe qui a occupé une très large place dans ses prises de parole lors de cette cérémonie du 75e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz.
Ludovic Piétenu en direct d'Auschwitz. Emmanuel Macron, lui, a choisi d'être à Paris plutôt qu'en Pologne. Le chef de l'État était ce matin au mémorial de la Shoah où il est venu inaugurer le mur des noms rénové, 222 dalles en pierre sur lesquelles sont gravés les noms de 76 000 juifs déportés de France entre 1942 et 1944. Le président y a prononcé un discours applaudi sur la nécessité de ne rien céder face à l'insupportable regain de l'antisémitisme, Rosalie Lafarge.
Oui, après avoir parcouru l'interminable liste de noms, le président a écouté les témoignages de plusieurs rescapés.
Je suis la seule survivante de toute ma famille.
Mes parents ont été assassinés sauvagement dans les chambres à gaz.
Nous avons mis 3 jours et 3 nuits pour arriver à Birkenau.
200 personnes dans l'assemblée, parmi elles 50 rescapés des camps installés au premier rang. Ils font partie des derniers survivants et certains redoutent qu'avec leur disparition, leur histoire ne disparaisse, elle aussi, ce qu'Emmanuel Macron refuse d'acter.
Le souvenir de l'horreur ne doit pas s'estomper. La Shoah ne doit pas cicatriser. Elle doit rester une plaie vive au flanc de notre République.
Elle doit le rester notamment parce que ce qui s'est passé peut recommencer. C'est ce que lance à la tribune le président du mémorial avant le discours du chef de l'État. Et à son tour, Emmanuel Macron insiste.
Qui, aujourd'hui, ne voit l'insupportable regain de l'antisémitisme qui rampe dans notre Europe, dans notre pays? Qui ne voit ce mal souterrain progresser, qu'il porte son visage de toujours ou qu'il emprunte les masques nouveaux de la haine islamiste, de l'antisionisme?
Et ce n'est pas le problème des Juifs, c'est notre problème à tous, souligne le président de la République.
Alors nous ne céderons rien. Nous traquerons l'antisémitisme, le racisme sous toutes ses formes, la haine qui s'affiche au grand jour comme celle qui se tapisse dans l'ombre et l'anonymat des réseaux en ligne.
Face à ces menaces, Emmanuel Macron prescrit deux antidotes, le travail de mémoire et l'éducation.
Rosélie Lafarge, selon un bilan du ministère de l'Intérieur, les actes racistes et xénophobes sont plus que doublés en 2019. Agressions physiques, vols, profanations ou menaces, 1142 faits ont été recensés contre 496 l'année précédente. Selon le président de SOS Racisme, Dominique Sopo, cette hausse est à la fois le résultat d'un meilleur recensement, mais aussi d'une libération de la parole publique xénophobe au cours des derniers mois.
Nous avons eu Éric Zemmour qui a appelé quasiment ouvertement à des ratonnades envers les immigrés, leurs enfants et les personnes de culture musulmane lors de la convention de la droite. Cette sortie ne lui a pas interdit l'accès à une émission sur une chaîne d'info, en l'espèce CNews. Nous avons eu également dans le gouvernement des ministres qui ont entretenu un débat autour de la question, par exemple, des accompagnements de sortie scolaire, en pointant de façon constante les mères de famille qui viendraient voiler pendant ces sorties. Donc à partir du moment où, dans une partie des médias, on promeut les personnes qui tiennent des discours de haine, des discours qui, de fait, renvoient au fond de sauce de théories telles que celle du grand remplacement, l'accumulation de ces sorties, pour des raisons idéologiques ou pour des raisons de cynisme électoral ou pour des raisons de buzz médiatique, sont des éléments qui libèrent le sentiment finalement de légitimité que l'on aurait à penser ainsi et donc à passer à l'acte.
Dominique Sopo, président de SOS Racisme, joint par Diane Berger. Le groupe État islamique affirme vouloir lancer une nouvelle phase de son djihad en ciblant spécifiquement Israël. Objectif affiché par le nouveau chef de Daesh, je cite, combattre les juifs et rendre ce qu'ils ont volé aux musulmans. Cet appel est lancé alors que la publication du fameux plan de paix de l'administration Trump est imminente. Donald Trump reçoit aujourd'hui le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, et son adversaire, Benny Gantz, pour discuter des détails de ce plan qui sera dévoilé demain. Il comprend, selon les Palestiniens, l'annexion par Israël de la vallée du Jourdain et des colonies israéliennes en Cisjordanie occupée, ainsi que la reconnaissance officielle de Jérusalem comme seule capitale d'Israël. À Gaza, des centaines de manifestants ont déjà manifesté cet après-midi. Alors Alice Frossard, vous êtes notre correspondante à Ramallah dans les territoires palestiniens. Et donc à la veille de la levée de rideau sur ce fameux plan, quelles sont les réactions ?
Côté palestinien, le message est clair. Avant même l'annonce officielle, les dirigeants rejettent ce plan. Mohamed Chtaye, le premier ministre palestinien, l'a rappelé. Cela est contraire au droit international et les droits des Palestiniens ne sont pas à vendre. Un haut responsable du bureau d'Abbas ajoute de son côté que le président de l'autorité palestinienne a refusé un appel de la Maison Blanche. Et Saeb Erekat, négociateur et secrétaire général de l'OLP, précise que les Palestiniens sont prêts à se retirer des accords d'Oslo. Les différentes factions, elles, appelle à un jour de rage, mais malgré ces déclarations dans les rues de Ramallah, l'ambiance est calme, les habitants presque indifférents. Ce n'est pas synonyme d'une quelconque acceptation, hein. Bien au contraire. Ce deal n'est pas nouveau, on a essayé de nous l'imposer, mais on le refusera toujours, me racontait Ali, un étudiant ramallahoui. C'est une stratégie électorale pour Trump comme pour Netanyahou, et nous allons en payer le prix, explique Maher, un commerçant du centre-ville. En tout cas, s'il est trop tôt pour prédire quelles seront les répercussions sur le terrain, une chose est sûre, les Palestiniens sont désabusés et c'est la paix qui risque de rester en plan.
Alors que le procès en destitution de Donald Trump se poursuit au Sénat américain, de nouvelles révélations mettent à mal la version défendue par la Maison Blanche. John Bolton, ancien conseiller à la sécurité nationale, contredit le président américain et il confirme l'abus de pouvoir de Donald Trump dans l'affaire ukrainienne, Grégory Phillips.
Oui, parce que ce que raconte John Bolton dans ce livre à paraître en mars, c'est qu'au mois d'août 2019, le président Trump dit à son conseiller à la sécurité nationale que les États-Unis ne verseront pas l'aide militaire promise à l'Ukraine, environ 400 millions de dollars, si Kiev ne fournit pas d'informations compromettantes sur le rival politique Joe Biden. C'est le New York Times qui rapporte ces informations. Pour l'instant, personne n'a lu ce manuscrit, mais si Bolton décrit ça, c'est une petite bombe évidemment, car c'est la confirmation d'un abus de pouvoir de la part du président. Hier soir, Donald Trump a réagi sur Twitter, je n'ai jamais dit cela, tout est faux, dit-il encore ce midi dans le bureau ovale, mais évidemment ces révélations changent pas mal la donne. Les démocrates qui jouent le rôle de procureur dans ce procès en destitution veulent faire témoigner John Bolton et cette question sera soumise au vote des sénateurs au Congrès en fin de semaine, sans doute vendredi.
Donc si John Bolton est amené à témoigner, ça va être très compliqué pour Donald Trump, Grégory.
Oui, ça explique sans doute pourquoi, depuis le début, la Maison-Blanche et le camp républicain ne veulent pas que des témoins soient entendus. Mais au Sénat, il y a maintenant deux élus républicains, en l'occurrence le sénateur de l'Utah, Mitt Romney, et la sénatrice du Maine, Suzanne Collins, qui poussent pour que Bolton soit auditionné. Si leur vote s'ajoute à celui des 47 sénateurs démocrates et qu'au total 4 sénateurs républicains, dont Collins et Romney, disent oui à cette audition, alors John Bolton pourrait être amené à raconter tout ce qu'il sait devant le Sénat américain. Et là, le procès en destitution de Trump prendrait une autre tournure et pourrait ne pas se terminer cette semaine, comme le souhaite la Maison-Blanche.
Grégory Phillips, en direct de Washington. Les États-Unis proposent leur aide à la Chine pour contenir l'épidémie de coronavirus. Pour l'instant, plus de 2700 personnes ont été contaminées. Il y a eu au moins 81 morts, dont un à Pékin. Et aujourd'hui, le Premier ministre chinois s'est rendu à Wuhan, au cœur de l'épidémie. C'est la première fois que Pékin envoie une personnalité de ce niveau dans la ville coupée du monde. Une visite qui a ému la population, Dominique André.
Dans la nuit, des quartiers entiers de Wuhan chantent pour leur ville. Les habitants sont à leurs fenêtres, comme dans une communion de destin. Unis dans la bataille contre le virus, ils reprennent les paroles de Li Keqiang, venu visiter aujourd'hui l'hôpital des maladies contagieuses avec son masque sur le nez. Allez Wuhan, allez Wuhan. La scène émouvante de ce soir, reprise par les réseaux sociaux chinois, n'occulte pas les critiques qui circulent depuis plusieurs jours contre les autorités du pays. Des habitants contestent les chiffres officiels sur le nombre de victimes, beaucoup plus important, disent-ils, que le bilan affiché. Un autre grand thème préoccupe aussi les internautes, c'est l'utilisation des masques de protection. Des masques usagés seraient récupérés, peut-on lire, pour être recyclés et revendus trop cher, alors que Wuhan manque de masques de protection. Un mois après le début de l'épidémie, qui n'aurait pas été déclaré assez tôt, Wuhan ne veut pas qu'on l'oublie. Et quand le Premier ministre se déplace, c'est l'émotion, malgré les critiques, la fatigue du confinement et parfois la colère.
Dominique André, correspondante de France Culture en Chine. Le chômage continue à baisser significativement, se félicite la ministre du Travail, Muriel Pénicaud. Selon les chiffres de Pôle emploi, il y a eu l'an dernier 120 700 demandeurs d'emploi sans activité en moins, une baisse donc de 3,3%. C'est la plus grosse baisse sur un an depuis la crise de 2008, Marie Viennot.
Il faut effectivement remonter à 2007 pour constater une baisse aussi forte du nombre de demandeurs d'emploi en une année civile. 120 700 chômeurs et chômeuses de moins en 2019. En France, en catégorie A, c'est-à-dire ceux et celles qui n'ont aucune activité, c'est deux fois plus de chômeurs en moins que l'année d'avant, en 2018, alors que la croissance, que l'on dit généralement créatrice d'emplois, a été moins forte en 2019 qu'en 2018. Néanmoins, ce n'est pas parce que le nombre de demandeurs d'emploi a le plus baissé depuis 2008 que l'on a retrouvé le niveau de chômage d'avant la crise. Loin de là. En 2008, il y avait 2 200 000 chômeurs et chômeuses en catégorie A et aujourd'hui, on est à 3 600 000, plus d'un million de plus. Même chose quand on prend l'ensemble des catégories de chômeurs et chômeuses, y compris ceux qui ont un temps partiel subi. Aujourd'hui, on est à 6 500 000 contre 3 700 000 avant la crise. On est donc loin de ce niveau de chômage d'avant la crise financière et on reste même au-dessus de ce qu'il était au milieu de 2014, année où l'inversion de la courbe du chômage était une obsession et où le nombre de demandeurs d'emploi était passé, contrat aidé aidant, en dessous des 6 millions. Cela dit, on est bien sur une décrue du chômage entamée bon an mal an en 2015 avec d'un trimestre à un autre des hausses et des baisses. C'est donc un signal d'espoir, a réagi la ministre du Travail Muriel Pénicaud. Le ministre des Finances Bruno Le Maire, lui, veut croire qu'il est possible d'atteindre le plein emploi en 2025.
Marie Viennot. Le conflit à Radio France pourrait marquer une pause. Ce week-end, la direction a suspendu le plan de départ volontaire. Une majorité de syndicats, 4 sur 6, ayant accepté de négocier sur une rupture conventionnelle collective. Cette nouvelle procédure permettrait de favoriser les départs à la retraite tout en continuant à recruter, contrairement au plan de départ volontaire qui, lui, gèle les embauches sur les postes supprimés. Nous en sommes au 56e jour de grève, Maxime Tellier. Le mouvement va-t-il encore durer ?
Alors, c'est toujours délicat de faire des pronostics. Ce qui est certain, c'est que désormais, les opposants au plan d'économie de la direction ont un autre moyen que la grève pour se faire entendre. Ils peuvent négocier grâce à 4 syndicats qui représentent 56% des salariés et qui ont donc signé pour se mettre autour d'une table, négocier le contenu de cette rupture conventionnelle collective qui remplace le plan de départ volontaire qui est suspendu et pas annulé. Tout cela est nouveau car auparavant la direction refusait de négocier et son plan était unilatéral avec 299 suppressions de postes. Désormais, c'est donc négociable. Cela change la donne pour la CGT qui menait seule la grève. Lionel Thompson est l'un des élus CGT et il l'a reconnu ce midi en Assemblée Générale.
Le rapport de force est singulièrement changé puisque les organisations qui ont signé l'accord pour négocier, très probablement, ne vont pas revenir dans la grève. Est-ce que ça veut dire que nous, il faut qu'on réfléchisse à suspendre provisoirement le mouvement? Est-ce qu'on le poursuit et pourquoi on le poursuit? Nous, on pense à la CGT de toute façon, quelle que soit la forme, qu'on continue à porter la revendication qui est celle de ce préavis de grève, qui est qu'on refuse le plan d'économie, qu'on refuse un tel niveau d'économie et qu'on refuse les suppression d'emplois.
Alors pour l'instant, la CGT continue la grève. Elle a été reconduite ce midi jusqu'à demain. Mais après, il va falloir choisir. Pour certains grévistes, le plan de la direction reste dangereux malgré la suspension du plan de départ. Ils ont d'ailleurs vivement reproché aux autres syndicats d'avoir accepté de négocier. Mais en interne à la CGT, d'autres estiment que la grève doit s'arrêter, au moins temporairement. Les autres syndicats veulent faire embaucher des jeunes précaires, remplacer des gros salaires par des plus petits et donc faire des économies, mais sans supprimer de postes. Reste à savoir ce que la direction est prête à faire entre un gouvernement qui impose des restrictions budgétaires et des salariés qui continuent de s'y opposer.
Maxime Tellier, la Haute Autorité de Santé accélère le rythme pour suivre celui des innovations médicamenteuses. Le déploiement de la thérapie génique et cellulaire notamment a permis beaucoup d'avancées ces dernières années. Les essais cliniques se sont multipliés et pour les seules années 2020-2021, plus de 20 thérapies géniques vont arriver sur le marché. La Haute Autorité de Santé souhaite donc pouvoir donner plus rapidement son avis sur l'intérêt de rembourser ces médicaments qui peuvent soigner des cancers, des maladies rares ou neurologiques, aller plus vite donc, quitte à donner d'abord des avis conditionnels sur ces médicaments. Écoutez les explications de Christian Tuilez et de Dominique Le Guludec de la HAS.
Ils arrivent très vite, très tôt, avec des essais très préliminaires, et donc on a moins de connaissances sur leur efficacité, sur leur tolérance. Donc à la fois ils sont chers et à la fois il y a plus d'incertitudes. Néanmoins, il représente un tel espoir pour les patients, surtout dans des pathologies sévères avec des besoins non couverts, que nous souhaitons faciliter leur accès tout en garantissant la qualité.
Si je peux me permettre, ce que nous acceptons de faire, c'est d'évaluer le médicament malgré des données incomplètes pour permettre la mise à disposition du médicament. C'est là que se passe l'accélération du processus. On pourrait très bien dire les données sont incomplètes, on ne prend pas votre médicament. Non. On évalue le médicament et on dit, écoutez, il nous paraît intéressant, on vous demande des études complémentaires, mais donc c'est une acceptation conditionnelle.
C'est conditionné également à une bonne information des professionnels de santé et des patients, parce que si nous faisons un pari initial, nous pouvons éventuellement revenir en arrière. Et ça, ce n'est pas si simple.
Parce que sinon, c'est très décevant pour le patient, décevant pour les praticiens, bon, bien sûr décevant pour l'industriel, et on aboutit à des catastrophes et à des levées de boucliers en disant que la HAS refuse l'accès ou a dégradé l'avis sur tel ou tel médicament et c'est une grande surprise. Eh bien non, ça ne doit pas être une surprise. Et il faut vraiment que le jeu soit clair et que toutes ces évaluations conditionnelles soient portées à la connaissance du patient qui sait qu'il a un médicament qui a été soumis à une évaluation conditionnelle. Il décide d'être pris en charge avec ce médicament et donc il accepte le fait que ce médicament sera réévalué et potentiellement dégradé.
Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout médicament nouveau n'est pas une innovation, c'est-à-dire qu'elle n'apporte pas forcément un progrès thérapeutique pour les patients. Et nous, on est là pour arbitrer ça. Donc on veut bien aller un peu plus vite, aller un peu plus fort, mais il faut qu'on nous donne la marge de manœuvre de rétro-pédaler si jamais le médicament ne tient pas ses promesses.
Propos recueillis par Tara Schlegel. Il a passé un quart de siècle à la tête de Marseille. Jean-Claude Gaudin a tenu ce matin son dernier conseil municipal. Le maire Les Républicains, âgé de 80 ans, ne se représentera pas lors des prochaines élections. Reportage d'Olivier Martoc à Marseille.
Les mots les plus attendus ce matin étaient les derniers prononcés par l'homme qui présidait pour la 198e et dernière fois en 25 ans le conseil municipal de Marseille.
Nul ne peut arrêter l'horloge du temps. Elle sonne aujourd'hui pour moi l'heure du retrait. Je souhaite bonne chance à Marseille.
Moi encore, avec les hommages unanimes des élus, les opposants comme le PS Benoît Payan et Stéphane Ravier pour le Rassemblement National.
Aujourd'hui, une page se tourne et bien prétentieux serait celui ou celle qui pourrait prétendre gouverner Marseille sans consulter. qui en a présidé les destinées pendant un quart de siècle.
Je dois vous dire la vérité, si je ne suis ni juge ni procureur, j'ai été le témoin privilégié de l'action d'un monstre qui a quand même dévoré ses enfants les uns après les autres, espérant sans doute la vie éternelle. Vous serez éternel, monsieur le maire. Vous pouvez en être persuadé.
Pendant ce temps dehors, une centaine de Marseillais en colère contre l'habitat insalubre donnaient eux aussi de la voix. Jean-Claude Gaudin ne les a pas croisés.
Demain mardi, le temps sera agité avec beaucoup de vent, de fréquentes averses sur le nord-ouest et sur le relief corse, de la neige en montagne. Au lever du jour, il fera 2 à 11 degrés. Les maximales atteindront 6 à 15 degrés du nord au sud. Ce journal a été préparé avec Brice Garcia.